Radio Okapi. Le journal Babel Pongo Basimamo. Madame, Monsieur, bonjour. La qualification des léopards, en continuant à parler avec ton sous-journal, la réaction de Serge Kondé, ancien ministre des Sports, celui-là même qui avait signé le contrat avec Sébastien Desabre. Aussi, ce constat, le football a encore une fois fait tomber les barrières. Majorité opposition salue la victoire des léopards malgré quelques divergences. Et puis ce drame des jeunes morts à Kinshasa dans leur shop après ce match. Comment encourager le développement des partenariats entre opérateurs économiques de la RDC et de l'Angola dans des secteurs comme l'énergie, la pêche, le transport et la logistique? Le sujet est au cœur d'un forum entre représentants de deux pays depuis hier à Kinshasa. La prestation de Léo Paris avec leur qualification pour la phase finale de la Coupe du Monde a fait l'objet des échanges entre les participants dans l'émission Dialogue entre Congolais d'hier mercredi. Vous suivrez leur réaction. Bienvenue à cette édition du journal. La fête continue. Nous parlons encore et encore ce matin de la qualification historique de nos léopards qui viennent de valider leur billet pour la Coupe du Monde face à la Jamaïque. Nous allons à présent découvrir celui qui avait signé le contrat avec Sébastien Desabre après la résiliation de celui qui liait la RDC à Hector Cooper. Il s'agit de l'ancien ministre des Sports Serge Kondé. Tout en félicitant les sportifs de la RDC, il propose au gouvernement de continuer à soutenir cette génération de joueurs qui a accepter de servir leur pays, leur nation d'origine. Ces propos sont recueillis par Jean Gandou.
Bien sûr, nous avons recruté sous notre mandat le sélectionneur Sébastien Desabre à qui nous avons donné un contrat de sélectionneur-manager. Le peuple congolais n'avait pas totalement confiance en cette décision-là, du fait que Sébastien Desabre était inconnu sur la scène sportive congolaise. Dès lors que j'ai eu le go du président de la République, il m'avait posé la question de savoir si je le connaissais. J'avais dit que j'avais un projet, et réellement, j'avais un projet avec Sébastien Desabre que je fréquentais depuis longtemps en tant qu'ami personnel. Et aujourd'hui, je pense que l'un des grands projets que l'on avait était de participer à la Coupe du Monde 2026. Et voilà, je suis plus que content de voir que ce projet a réussi. Vous avez vu vous-même la performance de l'équipe nationale à la CAN. Et aujourd'hui, qualifié à la Coupe du Monde, c'est vraiment une grande fête pour la République démocratique du Congo, une grande fête pour toute la nation et une grande fête pour toute l'Afrique. Je pense que ce que nous devons faire maintenant en tant que nation, c'est de pérenniser les acquis, c'est-à-dire conserver les jalons qui sont déjà jetés. Par la même occasion, je tiens à féliciter mon collègue, mon successeur, et ami, le ministre Didier Boudimbou, qui a respecté la notion de la continuité de l'État.
Encore de bonnes nouvelles, on rapporte toujours avec la performance des léopards. Si la politique divise, le sport lui rassemble, dit-on, constat dressé par plusieurs acteurs politiques congolais après cette qualification de l'équipe nationale à la Coupe du Monde, une première depuis 52 ans. Les députés nationaux de la majorité comme de l'opposition interrogés par Radio Okapi estiment que cet exploit des léopards incarne l'unité nationale au-delà des divergences politiques. Toutefois, les lectures diffèrent du côté de l'Union sacrée de la nation. On met en avant les efforts du gouvernement dans cette performance, tandis que l'opposition attribue cette réussite au soutien du peuple congolais. Les réactions des uns et des autres avec vous, grâce à Mzati.
Pour Gary Sakata, élu de Bagata dans la province d'Ikwilu et membre de l'Union sacrée, cette victoire s'inscrit dans une dynamique globale.
Nous avons des victoires sur le plan diplomatique, sur le plan culturel et ici une victoire supplémentaire au niveau mondial sur le plan sportif. Et cela tombe d'ailleurs à point nommé, c'est-à-dire au moment indiqué par rapport au contexte de guerre qui est le nôtre. Cette victoire, pour nous, est un élément majeur pour la vie nationale parce qu'elle contribue à cimenter l'unité nationale et à renforcer la cohésion nationale.
De son côté, l'opposant Émile Assani, élu de Kindu au Maniema sur la liste LGD, insiste sur l'élan populaire.
C'est grâce au soutien multiforme du peuple congolais que l'équipe nationale a pu se qualifier. Ce moment, messieurs les journalistes, est une occasion de fêter et de célébrer ensemble, opposition, majorité et société civile, notre qualification à la Coupe du Monde 2026.
Au-delà des clivages, la fierté est largement partagée. Des membres du gouvernement comme des figures de l'opposition, notamment Moïse Katumbi et Martin Fayulu, ont salué cet exploit. Dans la même dynamique, le prix Nobel de la paix Denis Mukwege adresse un message au léopard, je cite, « Sur ce terrain, vous avez démontré ce que nous oublions trop souvent, qu'un peuple peut avancer uni, malgré ses blessures, malgré les humiliations imposées, Fin de citation.
Et cette joie suscitée par la victoire des léopards s'est terminée, hélas, par une scène macabre pour quatre jeunes de la commune de Kinshasa, ici dans la capitale. Ces jeunes spécialisés dans la vente des viandes grillées et chikwang dans leur terrasse au rond-point Willery ont été retrouvés morts dans leur shop, selon des témoins sur place. Ils venaient de suivre le match de léopards, mais seraient partis dormir dans le shop avec un groupe électrogène qu'ils venaient d'éteindre. La police scientifique s'est déployée sur les lieux. Ils seraient morts asphyxiés, mais ce n'est qu'un soupçon. En attendant les vrais constats de la police scientifique. Une affaire donc à suivre. Place à l'économie. Comment encourager le développement de partenariats entre opérateurs économiques de la RDC et de l'Angola en vue d'élaborer des stratégies communes dans des secteurs prioritaires comme l'énergie, la pêche, le transport et la logistique. Des responsables gouvernementaux, des dirigeants d'entreprises, des partenaires techniques et financiers ainsi que des opérateurs économiques de deux pays réfléchissent justement sur cette question depuis hier mercredi à Kinshasa. Thème du forum, intégration sous-régionale et développement du commerce transfrontalier. Le ministre de l'économie, Daniel Moukoko Samba, revient d'ailleurs sur les enjeux de ce troisième forum. Il est au micro de Blaise Chindani Kambala.
Trois enjeux majeurs guideront nos travaux. Premièrement, la lutte contre le commerce informel. Si celui-ci traduit le dynamisme de nos populations, il prive néanmoins nos économies de ressources substantielles et freine la structuration de nos marchés. Il nous appartient de promouvoir une formalisation progressive des échanges, notamment par la simplification des procédures administratives et la mise en place d'incitations adaptées. Deuxièmement, la facilitation des paiements. Le développement du commerce bilatéral requiert des systèmes financiers modernes, fiables et accessibles. La mise en place de mécanismes de paiement efficaces permettra de sécuriser les transactions, de réduire le coût et de stimuler les échanges. Troisièmement, la mutualisation de nos moyens pour des projets structurants. En unissant nos capacités, nous pouvons développer des chaînes de valeur régionales compétitives. Ce forum constitue une véritable plateforme d'affaires. Les expositions, les rencontres B2B et les échanges sectoriels doivent permettre de transformer les opportunités en partenariats concrets, créateurs de valeurs et d'emplois.
Autre ville, autre réflexion, cette fois ce sont des coopératives minières, des responsables de différents services étatiques, des chefs coutumiers qui font une autopsie de l'exploitation illégale de l'or, la fraude lors de son exportation, la destruction de l'environnement, mais aussi le non-respect des cahiers de charges de communautés locales par certaines coopératives minières en Ituri. Tous ces problèmes ont été au menu d'un atelier sur la normalisation de la gestion de ressources minières pour une pacification durable de l'Ituri. C'était mardi à Bounia, une rencontre organisée par le Fonds national de promotion et des services sociaux avec l'appui de la section des affaires politiques de la MONUSCO. Que retenir Isaac Raymond?
En Ituri, l'exploitation de l'or constitue un enjeu majeur dans les conflits armés. Plusieurs groupes armés occupent encore des zones minières, notamment dans les territoires de Djougou, Irumu et Mambasa. Parallèlement, le nombre des coopératives minières ne cesse d'augmenter. Certaines sont financées par des partenaires étrangers et utilisent des équipements modernes pour l'exploitation. Cependant, les quantités d'or produites et exportées restent difficiles à tracer par les services de l'État. Et surtout, les retombées profitent très peu aux communautés locales, d'où la nécessité de normaliser la gestion de ces ressources, explique les responsables provinciaux du Fonds national de promotion et des services sociaux, Yemba Léon.
Et voilà le premier pas de réorganisation et de faire bénéficier la population à sa richesse. Et les résultats sont déjà là. Et à partir d'Inéa, nous avons déjà quelques coopératives qui réalisent déjà des engagements sociaux à faveur de nos communautés.
De leur côté, les coopératives minières affirment avoir réalisé plusieurs infrastructures sociales de base, notamment des écoles, des centres de santé, des forage d'eau dans certaines localités. Elle dénonce toutefois la gestion abusive de ces fonds par certaines autorités coutumières. Gilles Baimouka.
Certaines coopératives ont donné de l'argent aux coutumiers. Cet argent était dilapidé. Bon, à qui la faute? Les responsabilités sont partagées.
Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Sur le plan purement sécuritaire, sachez qu'un calme précaire a été observé hier mercredi dans plusieurs agglomérations du secteur d'Osso-Banyungu. Nous sommes dans le groupement de Niamaboko 1er, territoire de Massi ici au Nord Kivu, c'est après deux jours d'affrontements qui ont opposé des rebelles de l'FC 123 aux combattants Azalendo dimanche et lundi dernier au niveau de Showa, Miano et Kazinga à centre. Des sources locales indiquent que ces combats ont encore provoqué un déplacement de population vers des endroits un peu plus sécurisés. Des précisions avec Lievin Bunga.
Des sources locales renseignent que les rebelles de l'AFC M23 ont fait semblant de se retirer de cette zone il y a une semaine, mais c'était pour se regrouper à Niabiondo et à Kasopo. Quelques jours après leur retrait, selon nos sources, l'ennemi est retourné tôt dimanche dans la zone où il a attaqué les Wazalendo à Kazinga Centre et aux environs de Mukowa, Showa, Miyamo. Des combats qui ont duré presque toute la journée. Lundi, les combats se sont poursuivis à Mukowa, Ngululu et Umura. Les mêmes sources ajoutent que tous les deux jours, des détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues dans la zone, accroissant ainsi la panique parmi les populations civiles qui étaient retournées après le retrait des rebelles AFC M23 de ces agglomérations. Aucun bilan n'est encore disponible. Toutefois, la population a fui pour se mettre à l'abri. Certains se sont dirigés vers Massissi Centre, tandis que d'autres ont fui dans la forêt. Après ces intenses combats, une accalmie a été observée mardi dans cette partie du secteur Osso-Banyungu. Nos sources affirment que l'ennemi a été repoussé par les Wazalendo. Ils se sont dirigés vers leur position en Tété Luke et à Kaniro dans le groupement de Boabo.
Santé, avec ces chiffres assez alarmants en provenance du Nord Kivu, au moins 47 décès maternels ont été enregistrés dans l'ensemble des zones de santé que compte la province au cours de trois premiers mois de cette année. Ces chiffres ont été rendus publics hier mercredi à Beni par le coordonnateur du Programme national de communication pour la promotion de la santé, antenne du Nord Kivu. Il l'a fait à l'occasion d'une sensibilisation des prestataires de santé à l'hôpital général de référence de Beni. Face à la gravité de la situation, le Programme national de communication pour la promotion de la santé lance une série de dialogues pour sensibiliser les professionnels de santé ainsi que les communautés locales. Désiré Bouyana, son coordinateur provincial, explique ce qu'il en est au micro de Marc Maroufimbo.
Pour cette année, depuis le mois de janvier jusqu'à ce mois de mars, nous avons déjà enregistré 47 décès maternels dans toutes les zones de santé différentes. Puisque dans la province, nous avons 34 zones de santé. Et dans ces 34 zones de santé-là, deux seulement n'ont pas enregistré des décès maternels, mais les autres ont enregistré soit un décès. Et c'est à cause de cela que nous nous sommes donné la charge de dire que nous, en tant que Task Force Communication, nous devons aussi y aller avec notre méthodologie de conscientiser les prestataires. Nous allons aussi conscientiser la communauté pour que nous tous, à notre niveau, nous soyons conscients pour voir comment nous pouvons nous inscrire dans la logique de l'objectif du chef de l'État. Puisque si nous ne nous engageons pas. Si nous tous ne sommes pas conscients, la population, la communauté n'est pas consciente. Et les prestataires ne sont pas conscients. Les structures ne sont pas conscientes. En tout cas, nous n'allons pas y arriver. Voilà pourquoi nous appelons maintenant là tout le monde, la communauté, les prestataires, les acteurs, nous, les membres de la Task Force Communication pour des risques pour la promotion de la santé. Nous tous, nous devons nous engager et c'est avec notre engagement que nous allons atteindre des résultats.
Désiré Bouyana précise que ces dialogues de sensibilisation des prestataires de santé et acteurs communautaires vont être organisés dans tous les centres de santé et structures sanitaires de référence de la province. Lutte contre la poliomyélite. Les gouverneurs des provinces et les présidents des assemblées provinciales s'impliquent face à la résurgence aux préoccupantes des cas de polio dans plusieurs provinces de la RDC. Le Conseil national de la couverture santé universelle a réuni mardi à Kinshasa toutes ses personnalités. Objectif, renforcer la lutte contre cette maladie, susciter une mobilisation urgente et renforcer les autorités provinciales. Les échanges ont en effet mis en évidence la nécessité d'intensifier les campagnes de vaccination, de renforcer la surveillance épidémiologique et d'accroître l'adhésion des communautés aux interventions de santé. Le coordonnateur du Conseil national de la couverture santé universelle, Dr Polydor Mbongani et Kabila, explique la situation au micro de Jean-Marc Matwaki.
Le message est celui que le chef de l'État avait déjà émis lors du forum national sur la vaccination et l'éradication de la poliomyélite. Et aussi celui en rapport avec le suivi de la déclaration de Kinshasa qui avait été faite par le gouverneur et les engagements qu'ils avaient pris en faveur de la vaccination, mais aussi de l'éradication de la poliomyélite. Et donc nous avons discuté de ça et de voir à quel niveau d'engagement les gouverneurs sont, ou plutôt les différentes provinces, parce qu'il n'y a pas que le gouverneur, il y a aussi les assemblées provinciales, en termes par exemple des lits provinciaux, mais aussi en termes de mobilisation de ressources locales en faveur de la vaccination.
Réagissant à leur tour, le gouverneur du Sud Kivu, le haut représentant de la province du Maniema, ainsi que bien d'autres ont rassuré de leur soutien et accompagnement dans l'intensification des campagnes de vaccination dans leurs entités respectives. Ici à Kinshasa, la consommation des drogues se porte bien au quartier ancien combattant dans la commune de Ngalima, dont on assiste à une montée inquiétante de la consommation de ces substances chez les jeunes, entre insécurité et inquiétude des familles. Les habitants qui dénoncent ce fléau qui prend de l'ampleur appellent à une réaction urgente des autorités. Ce reportage de Jérémy Baraka est rendu par Esther Mamboté.
Dans ces quartiers de la capitale, ce phénomène se développe dans plusieurs zones peu surveillées, notamment au marché DGC, à Kiba, dans des chantiers abandonnés ou encore dans des épaves des véhicules le long de la route. Sur place, les habitants décrivent un quotidien de plus en plus difficile.
Nous avons plusieurs jeunes brutalisent les gens à partir de 19h-20h.
Une fois qu'ils se droguent et même se bagarrent d'abord, et là où ils se bagarrent, la population s'y exposée.
L'un d'entre eux avait pris le couteau et a enfoncé l'autre au niveau de l'épaule et sur la figure.
J'étais victime quand j'ai passé dans les marchés et ils ont eu à prendre ce qui était à moi, téléphone, l'argent et porte-monnaie.
Les responsables de la police nationale congolaise de ce coin de la ville disent reconnaître la situation. Des opérations d'arrestation sont régulièrement menées contre les consommateurs et les vendeurs. La police appelle toutefois la population à collaborer davantage. Contacté, les chefs du quartier ancien combattant s'est réservé de tout commentaire. Face à l'ampleur du phénomène, plusieurs observateurs plaident pour une réponse coordonnée entre autorités, forces de l'ordre et communautés afin de protéger les jeunes et rétablir la sécurité dans cette partie de la ville.
Actualité internationale.
Un incendie dans le principal dépôt des munitions de la Force de défense nationale burundaise situé à Musaga, un quartier densément peuplé au sud de la ville de Bujumbura, a déclenché une série d'explosions la nuit de mardi à hier mercredi et cela a coûté la vie à plusieurs dizaines de personnes selon des sources sécuritaires. Selon un porte-parole de l'armée, l'incident serait imputable à un accident électrique. Des détonations ont été si puissantes que des projectiles ont traversé des maisons voisines.
L'invité.
La RDC participera à la phase finale de la Coupe du Monde 2026 après sa victoire d'un but à zéro face à la Jamaïque ce mardi 31 mars au Mexique. La prestation des Léopards à cette compétition a fait l'objet des échanges entre les participants dans l'émission dialogante congolais d'hier mercredi. On les écoute au micro de Guy Maté.
Pierre Célestin Kabala-Monambouy, vous êtes analyste et sportif et président de l'Association des journalistes et sportifs du Congo. Quelle lecture vous faites de la prestation des Léopards face aux Reggae Boys ce mardi au Mexique?
Je peux avouer que moi, j'étais suspendu en suivant la prestation des Léopards face aux Reggae Boys. Je me disais que finalement, ça devient comme un rituel et que nous risquions de connaître encore ce que nous avons connu dans les temps où, vers la fin de la rencontre, nos joueurs s'affaissaient. Malgré la domination de Jamaïcains, c'est vers la fin que l'entraîneur national a pu faire appel à du nouveau souffle. Ce qui lui faisait défaut dans le passé. Parce que dans le passé, on perdait tous nos matchs, souvent vers la fin. Mais voilà, au cours des prolongations, des sabres a fait appel à deux jeunes qui ont redonné du souffle et qui ont permis à notre équipe nationale de nous remettre sur les rails et de remporter ce match de qualification. Quelle joie pour nous et particulièrement pour moi qui ai vécu 74 et qui ai vécu cette traversée de désert. On se disait qu'on n'avait plus jamais la chance de nous retrouver à une Coupe du Monde. Avec une jeunesse en qui on n'avait pas beaucoup confiance parce que réduit à la danse des Ndombolo et surtout à la solution de facilité. Mais hier, nous avons assisté à une prestation de jeunes gens qui se sont dit qu'ils devaient donner le meilleur d'eux-mêmes et qu'ils devaient boire le calice jusqu'à la ligne. Et ils l'ont fait, et c'est vers la fin que nous avons assisté à ce que je peux appeler la renaissance du football congolais, qui renaît sur les cendres de ses aînés, qui ont lutté 5 ans, 2 ans durant pour aller à la Coupe du Monde, qui n'y parvenaient pas. Quelle joie pour moi d'assister à cette restauration.
Merci Delphine Kikuni, vous êtes ancien vice-président de la LINAFOOT et analyste sportif. Comment vous avez perçu la prestation des Léopards face aux Reggae Boys, c'est mardi au Mexique?
Il est vrai que le souffle était retenu pour tous les Congolais. Mais il est vrai aussi qu'à ce stade, ce qui importe, c'est de gagner ce match. Le match de cette catégorie ne se joue pas. On n'avait pas besoin de spectacle. On avait besoin de gagner de la victoire. Et tout passait par la victoire. Et donc, pour moi, ce match s'est joué selon l'enjeu qu'il y avait. Un enjeu majeur pour ces Léopards, pour ces joueurs, qui, non seulement qui voulaient marquer l'histoire de notre pays, qu'ils avaient besoin de donner de l'empreinte pour leur passage, et on a suivi leurs commentaires avant le match. Ils avaient besoin de leur prestige, ce qu'ils ont démontré. Donc, il fallait absolument gagner ce match. Et ce match s'est joué selon l'enjeu. C'est quoi l'enjeu? L'enjeu, c'est de redonner, de faire rêver tout un peuple. Qu'on soit qualifié hier, aujourd'hui ou avant-hier, c'est la qualification. Ils avaient besoin de ça. Et le match devrait se jouer selon cet enjeu-là.
Bailon Kabongolo, vous êtes sélectionneur de l'équipe nationale féminine des moins de 17 ans, les Léopards cadettes. Maintenant que les Léopards sont qualifiés, quelles pourraient être les priorités au sein de l'équipe nationale pour ne pas faire de la figuration comme ce fut le cas en 1974?
Oui, le premier responsable à ce stade, c'est le sélectionneur. Il s'est battu pour chercher à se positionner au niveau africain. Et voilà, comme venait de le dire le président, il est maintenant au niveau mondial. C'est vrai que, à la porte de la RDC, partout on va toquer. Mais c'est pas le nom de l'athlète, du joueur qu'il aura besoin, mais c'est partant de sa philosophie, qui prendre pour ramener quoi. Il est le seul maître, il a une vision, il va mettre une philosophie de jeu par rapport à ce qui compte pour relever encore davantage le niveau de l'équipe. Nous lui laissons cette opportunité, parce que tout ce que nous pouvons dire, ce n'est que nos réflexions, mais la réalité, c'est lui-même qui possède ça, mais tout en n'oubliant pas qu'il a une charge de tous les Congolais qui sont derrière lui et qui attendent un bon résultat. Donc, prions pour lui qu'il soit sage, qu'il voit ce qu'il pourra faire, mais cela n'empêcherait, en tant que membre de la direction technique nationale, de pouvoir donner des petites idées ça et là. Ça, c'est la première, parce que je parle de la direction technique nationale. C'est pas aussi normal qu'un directeur technique puisse aller au Mexique en figurant.
Vous pouvez continuer à suivre Dialogue entre Congolais sur www.radiocapi.net, également sur les différentes plateformes numériques de Radio Okapi, Facebook, X ainsi que YouTube. Voilà qui signe la fin de ce journal préparé par Lievin Mwinga, mis en onde par Jean-Claude Siala. Merci à vous qui venez de nous suivre. Bonne suite de programme sur Radio Okapi.